À voix nue, Caroline Brouet. Cette semaine avec
Olivier Rollinger, une balade entre ciel et mer.
Quatrième épisode, cuisinier, mais pas que. Bonsoir Olivier Rollinger.
Bonsoir à vous.
J'aimerais ce soir que nous parlions de vos engagements. Ils ont été nombreux au cours de votre carrière, ils le sont encore. Vous avez été à la tête de l'association Relais Château pendant 9 ans, pendant jusqu'à fin novembre 2022. Vous parrainez de nombreuses associations et vous vous êtes même engagé en politique lors des régionales de 2021. J'aimerais, pour commencer, savoir comment vous justifiez ce besoin de vous engager à côté de votre métier de cuisinier. Est-ce qu'on pourrait voir cela comme un effet collatéral, disons, de la course aux étoiles dans laquelle vous vous êtes lancé dans les années 80, 10 et 2000, puisqu'en 84, il faut le rappeler, vous avez eu la première étoile au Guide Michelin. En 88, c'était la deuxième étoile. Des années importantes, hein, d'ailleurs, parenthèse, parce que la première étoile a coïncidé en 1984 avec la naissance de votre fille Mathilde, et que le jour même où vous avez reçu la deuxième étoile en 88, le 4 février, c'était la naissance de Hugo, donc ça n'est pas n'importe quelle date non plus. Mais bon, continuons. En 94, vous avez eu 19,5 sur 20 au Gomillot, et la troisième étoile est arrivée en 2006. C'est une fièvre aux étoiles. Est-ce que cette fièvre aux étoiles a provoqué chez vous comme une prise de conscience qu'il fallait à un moment en sortir et voir autre chose, et donc voir de quels engagements vous pouviez être porteur ensuite?
Alors, tout d'abord, j'étais, mais comme beaucoup, de cuisinier, parti dans une espèce de fièvre avec, et enfermé dans une tour d'ivoire ou peut-être dans un tunnel, certes tapissé de soie et tissé de fil d'or, mais c'était un véritable tunnel et un espèce de peut-être il faut pas en vouloir au guide, que ce soit le Gomillot ou le Michelin. Je crois que les uns les autres, on s'enfermait dans une espèce de carcan en ne regardant pas ce qui se passait dans la rue. Et pour le plus grand nombre, en réalité, on s'occupait de notre cuisine, mais on s'occupait pas d'alimentation. Or, il existe, c'est pas possible de vouloir faire la promotion et d'exercer le métier de cuisinier au plus haut niveau si nos enfants sont mal nourris. Non seulement nos enfants sont mal nourris, mais si également le garde-manger de l'humanité que sont la terre et la mer, façonnés par des hommes et des femmes, ce garde-manger est en danger. Donc deux prises de conscience. Tout d'abord que le vivant et la nature et les produits de qualité et la biodiversité des produits de qualité qui pouvaient se consommer, eh bien, s'effondrait, d'une part, et que d'autre part, l'alimentation du plus grand nombre était de piètre qualité. Et un jour, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre. C'était pour le lancement à la fois du livre et du film « Trois étoiles de mer », dans un grand espace des Champs Libres à Rennes qui venait d'ouvrir. Et un samedi après-midi, premier samedi de printemps, le journal Ouest France me demande de venir présenter le livre et le film. Moi, je me dis, ça va intéresser personne. Je suis sur la route vers 15h de Cancale vers Rennes. Je dis, il va y avoir absolument personne dans cet amphithéâtre. Et en fait, il était bourré. Alors, je lui dis, je comprends pas, il devrait aller se promener, il fait beau, les gens. Ils sont venus, et je lui dis, ce sont que des gens qui aiment ma cuisine. Et puis, au cours du débat, il y a une dame qui s'est levée et qui voulait me poser une question. Et qui, avant de commencer la question, elle a dit, mais moi, je n'ai pas eu la chance de venir goûter votre cuisine. Et il s'est retourné vers l'assemblée, a dit, d'ailleurs, dans cette assemblée, il devait y avoir peut-être 350 personnes. Combien de personnes ont eu la chance de goûter la cuisine d'Olivier Rollinger? Et là, il y avait simplement une minorité. Je me suis rendu compte que les gens venaient écouter un autre message que simplement des recettes de cuisine. C'est-à-dire ce que je pensais, ce que je... Et alors j'avais des idées un petit peu pour les miens, mais je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir un impact sur un public plus large. Et là, je me suis rendu compte que C'était bien de m'occuper de mon équipe, des 40 couverts le midi, des 40 couverts le soir. Mais peut-être qu'un cuisinier pouvait aller au-delà, en étant pleinement conscient des problèmes des producteurs, du drame des campagnes, du drame des gens qui font de l'élevage, qui font du maraîchage, du grand problème également de la pêche. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à de vrais problèmes, enfin en fait aux enjeux sociétaux de notre époque, c'est-à-dire qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, culturels et in fine de santé publique.
C'est pour cette raison, Olivier Rollinger, que quand vous avez arrêté en 2008 pour des raisons de santé,
oui.
Vous n'avez pas repris d'abord dans le même rythme et puis dans le même restaurant ensuite,
non,
parce que vous vous êtes diversifié d'une certaine façon.
Oui, quand vous avez un gros problème de santé, vous ne savez pas vraiment comment vous allez vous en sortir. La première urgence, enfin, c'est peut-être des réactions aussi de marin, c'est de mettre toutes celles et tous ceux que vous aimez à l'abri. En particulier ma famille et mon autre famille, qui est l'équipage des Maisons de Bricourt, qui était un équipage qui était et qui est toujours un équipage absolument exceptionnel. Donc l'idée, c'était de fermer le restaurant 3 étoiles pour, au contraire, développer toutes les autres activités, c'est-à-dire le bistrot marin, nouvelle manière d'aborder l'hébergement, développer évidemment les épices et peut-être rendre à ceux et à celles d'à l'autre bout du monde qui m'avaient permis de signer une cuisine singulière, eh bien leur permettre de vendre d'une manière plus équitable ce qu'ils produisaient. Et puis l'école de cuisine Corsaire, et puis le Grain de Vanille, le salon de thé pâtisserie, et puis de grandir comme ça,
se développer
avec ces hommes et ces femmes de très grande qualité, mais en sortant du champ des 3 étoiles. Et puis bon, ben les fées étaient avec moi, et puis aussi d'excellents médecins ont réussi à me soigner. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie également? Enfin, je ne me suis pas posé beaucoup la question. Je me dis, maintenant je m'en suis sorti de cette épreuve, ben, tout est en place. Les enfants, Mathilde comme Hugo, n'étaient pas encore venus nous rejoindre. Et avec l'accord de Jane, je me suis engagé dans différents mouvements. Alors j'étais très lié avec Carlo Petrini de Slow Food depuis très longtemps. J'avais appris auprès d'hommes et de femmes qui étaient des précurseurs sur le marché d'Élis à Rennes, qui étaient les premiers producteurs en bio, que l'on prenait, souvenez-vous, hein, on est dans les années 80-90, on les prend pour des babas allumés, fumeurs de pétards, bon gaucho, un peu paumés. En fait, ils avaient tellement raison, ces gens-là. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on voit même un Leclerc bio et peut-être, pourquoi pas, un Monsanto bio. Donc, j'apprends aussi la notion du vivant, j'apprends les valeurs nutritionnelles, je me rapproche de beaucoup de évidemment d'associations qui défendent les ressources halieutiques, parce que c'est pas les quelques pêcheurs de Cancale qui ont vidé la Manche et qui ont créé ces problèmes aujourd'hui de surpêche. Donc je me suis vraiment et puis j'ai rencontré des gens du CNRS, j'ai rencontré des scientifiques dans tous les domaines. Enfin, je me suis nourri un petit peu et je me suis dit, moi, je suis pas un scientifique, je suis pas un aventurier, je suis un cuisinier à Cancale, mais est-ce que ma voix peut-être porter avec beaucoup d'humilité, sans être donneur de leçons, et en se disant, ben finalement, voilà mon point de vue. Il peut évoluer. Je détiens pas une vérité. Mais mon regard sur l'alimentation, est-ce que je peux le partager avec un plus grand nombre ?
Donc c'est presque trouver des moyens de pression différents pour faire bouger les lignes.
Voilà.
Et vous sentiez que vous étiez porteur d'une responsabilité.
J'étais le témoin d'une fracture alimentaire. Cette fracture alimentaire qui existe toujours, elle se rapproche, elle n'est pas très loin d'ailleurs de cette fracture culturelle dans la population française. J'ai senti presque le devoir de tenter de réduire cette fracture alimentaire.
Mais je vais vous poser une question un peu bête, Olivier Rollinger, vous auriez pu vous dire, voilà, mon métier c'est cuisiner, je tiens à ce que les clients et les clientes de mes restaurants mangent bien, et je suis porteur de, non pas un discours, mais une façon de bien manger. par ma cuisine dans mes restaurants. Donc la meilleure manière de réduire la fracture alimentaire, c'est de réduire les prix dans mes restaurants pour qu'ils soient accessibles à tout le monde, non ?
Oui, alors... Bien sûr, non, mais ça, réduire, avoir le prix, il s'agit pas de, moi je te parle toujours dans une activité, c'est pas de réduire les prix, c'est d'avoir le prix juste. Alors, d'avoir le prix juste pour pouvoir correctement rémunérer son équipage, sans quoi on n'a pas les bons, et puis c'est pas juste du tout pour eux. D'autre part, il faut avoir aussi des prix qui permettent de toujours avoir un lieu de grande qualité et parfaitement entretenu. Et puis d'acheter, de pouvoir acheter des produits de grande qualité à des producteurs et sans s'amuser en permanence à tirer les prix auprès de ces hommes et ces femmes qui nous amènent ces produits de grande qualité. Maintenant, vous savez, quand on se limite à 40 couverts midi et soir, c'est pas ça qui va changer la face de la planète. En revanche, de tenter de voir ce qui se passe dans le milieu de la pêche, dans le milieu de l'agriculture. J'en dis, mais pourquoi finalement un cuisinier s'occupe de pêche et de... Mais parce qu'un cuisinier, c'est... quand je prends la parole à la Fondation de l'Académie de médecine, ou quand je prends la parole aujourd'hui dans un amphithéâtre, quand je vais à l'UNESCO, je ne parle pas en tant que cuisinier, je ne parle pas le cuisinier étoilé, je ne parle pas le cuisinier en les châteaux, je ne parle pas le cuisinier... Je parle au nom de celles et de ceux qui transforme l'aliment, c'est-à-dire le papa, la maman, l'oncle, la tante, le cuisinier dans le restaurant de la maternelle ou du collège. C'est surtout pas la dimension élitiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est pas la cuisine de haute couture. Évidemment, elle m'intéresse toujours, mais c'est aujourd'hui Hugo qui la réalise parfaitement bien, donc c'est pas le sujet dans la famille. J'adore tout discuter toujours avec lui. On passe des nuits entières à parler cuisine et avec tous mes collègues. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les maternelles, ce qui se passe, le drame des pêcheurs, les artisans pêcheurs, le drame dans le monde paysan, que ce soit dans le monde de l'élevage, dans la production de lait, ou peu importe, ou dans le maraîchage. Ces sujets politiques qui souvent se règlent à Bruxelles aujourd'hui, en particulier les problèmes de la PAC, les problèmes des chambres d'agriculture, des problèmes des liens entre... en fait, tous les sujets de nos sociétés actuellement se concentrent autour de l'alimentation. Je pense que l'homme politique qui va comprendre comme quoi l'alimentation est la clé de voûte de cette transition écologique, enfin de cette transition d'époque, simplement, on l'appelle écologique ou pas, les transitions d'époque, où on doit prendre conscience que ce garde... Alors, moi, je ne parle pas au niveau énergie, ce n'est pas mon domaine, mais au niveau de l'alimentation, le garde-manger est malade, est en danger, qu'il soit terrestre ou qu'il soit maritime, à nous de le préserver. Et ensuite, essayer de faire en sorte que la France, qui est le pays des droits de l'homme, devrait être le pays du droit de bien manger. Et le droit de bien manger, pas réservé... être un privilège réservé à quelques-uns, mais un droit pour tous.
On en parlera demain de cette question et de la révolution délicieuse Aurélie Bierolinger. Venons, si vous le voulez bien, à ces ONG, à ces associations dans lesquelles vous vous engagez. Et notamment peut-être à la première d'entre elles, puisqu'elle vous a occupé 9 ans de votre vie, Relais et Châteaux. Oui. Déjà présentation peut-être de Relais et Châteaux.
Alors, Relais
pour
Châteaux, c'est
nos auditeurs, nos auditrices. Oui.
Alors pour beaucoup, Relais et Châteaux, ce sont des hôtels de luxe. Alors je vais juste vous mettre à plat ce qu'est cette association. C'est une association 1901 à but non lucratif qui regroupe, qui aujourd'hui n'est pas du tout simplement française et absolument internationale.
62 pays qu'on gère.
62 nationalités. 540 maisons. Alors la très grande majorité ont des chambres, mais beaucoup c'est simplement une table. Donc avant tout, Relais Châteaux, c'est une table avec bon nombre d'entre eux des chambres, mais pas beaucoup de chambres. La moyenne, c'est une vingtaine de chambres. Donc vous voyez, c'est surtout pas des grands resorts. Donc c'est un artisanat dans des endroits les plus secrets du monde, dans des endroits absolument toujours très beaux. Christine Guérard, cette femme pour laquelle j'avais la plus grande admiration, disait toujours « Un Relais Château, c'est une maison d'hôte pas comme les autres ». C'est-à-dire c'est un endroit qui est habité. C'est un endroit qui est... c'est pas le fruit simplement d'un architecte et d'une équipe d'experts de l'école de Lausanne. C'est un endroit où on vient partager vraiment le coup de foudre ou le lieu où les gens ont vécu. Enfin, c'est partager un bonheur dans un endroit donné. Lorsqu'on ne vit pas ça, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un Relais Château. Cette association, il y a quand même 44 000 collaborateurs dans le monde, passer un petit peu pour une collection, comme ça, un petit peu de maisons, de belles maisons de grande qualité, d'artisans,
de
cuisiniers
aussi,
et de luxe.
Mais elle a trois missions.
Mais là, tout d'un coup, moi, je me suis dit, on doit aller plus loin, on doit aller beaucoup plus loin. Et ma mère me disait toujours il y avait des choses qui me convenaient pas, parce que je trouvais que c'était trop, ça ne s'adressait finalement qu'à un public qui avait le pouvoir d'achat d'aller dans ces maisons. Or, moi, je disais, Relais Château, c'est pas simplement une collection de maisons, mais ça doit devenir un mouvement. Un mouvement avec des chefs et des propriétaires engagés tout autour de la planète, et en particulier pour défendre et promouvoir la diversité des cuisines du monde. Pourquoi ? Parce que derrière chaque cuisine, parce que si vous voulez, bien souvent, même les Français, on a avec un petit, parfois un peu d'arrogance, persuadé que on peut distribuer une forme de règle sur l'art de vivre à la française, qui devrait être un modèle de luxe, enfin, et d'hébergement, voire de cuisine, voire de service. Alors moi, je pense que c'est se fourvoyer de pouvoir penser que une cuisine pourrait être faire partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Pour moi, patrimoine immatériel de l'humanité, c'est la diversité des cuisines du monde. C'est la diversité des arts de vivre dans le monde. On n'accueille pas de la même manière dans un ryokan que dans un riad au Maroc. On ne voit pas la même chose au fin fond de la Chine que au fin fond de la Patagonie. Ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire cette forme d'impérialisme culturel, culinaire français, pour moi, n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas défendre bec et ongle l'art de vivre à la française. Mais quel intérêt de trouver la même cuisine ou le même service de l'autre côté de la planète, au fin fond de l'Inde ou au fin fond de...
Donc ça, préserver ça les intérêt. Cuisines du monde, c'est une des premières missions que vous vous êtes donnée en tant que vice-président de Relais Château.
Enfin, c'est celle qui me tenait à cœur. Et puis ensuite, un monde meilleur par la table et l'hospitalité. C'est un grand mot, c'est des grandes phrases. Il fallait étayer. J'ai réussi avec une petite équipe, et en particulier avec le président à l'époque, mon dernier et ami Philippe Gombert, qui vient de passer le flambeau comme moi là il y a quelques semaines, de pouvoir créer une véritable dynamique avec ces 20 engagements très précis sur les producteurs, sur la dimension sociale au niveau de nos équipes, mais aussi au niveau des communautés. Et pour beaucoup, on peut paraître pour un peu des portes ouvertes. Mais là, on parle du monde.
Mais parce que là, vous avez vraiment présenté, écrit un manifeste que vous êtes allé présenter à l'UNESCO en 2014.
Effectivement, novembre 2014.
Intitulé « Rendre le monde meilleur par la table et l'hospitalité ».
Accueilli par l'ambassadeur des droits de l'homme dans le monde.
20 engagements sociaux et environnementaux, partant d'un constat d'une évolution négative des pratiques alimentaires et de la standardisation des cuisines dans le monde.
Oui.
Mais la question suivante, c'est comment on s'y prend pour partager la passion du beau et du bon, être acteur d'un monde plus humain.
Alors, d'abord, ce que je trouvais merveilleux, c'est que j'avais 550 chefs m'avaient en quelque sorte élu à l'international pour les représenter. Je leur avais présenté déjà cette vision, et en fait, tous les cas, ces engagements. J'ai réussi à les mettre sur papier. J'ai réussi à les faire accepter par l'UNESCO. Ensuite, il fallait que je réussisse à les convaincre pour transmettre exactement ce même message, que ce soit au Japon, qu'en Californie, en Allemagne, en Scandinavie ou en Patagonie.
Et que ça passe en acte, ensuite.
Et ensuite que ça passe en acte. Alors, je veux dire, au départ, on a dû démarrer, et il y en avait beaucoup qui le faisaient, mais sans le savoir. C'est-à-dire que, je veux dire, en tant qu'artisan, cuisinier, quel que soit l'endroit de la planète, essayons de raconter collectivement ce que nous faisons individuellement. Et pouvoir ensuite aller plus loin pour que ce soit de véritables lignes et allons plus loin sur un tas de domaines, simplement à supprimer le plastique dans nos maisons, mais aussi à aller dans les écoles dans chacune de nos régions, à sensibiliser aussi les politiques locales, faire en sorte que on puisse comprendre ce qu'est un poisson durable, qu'on puisse défendre les semences paysannes également, que l'on puisse être des sentinelles sur des produits qui étaient sur le point de disparaître, qui n'intéressaient plus personne et que nous remettons vraiment en lumière dans l'esprit des sentinelles celle de Slow Food. Tout ce mouvement-là s'est mis en place. On est parti, je pense qu'on était à 55-60% de membres convaincus.
C'est une petite COP à vous tout seul, quoi.
Voilà, exactement. Mais exactement. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre toujours du haut. Mais les uns les autres, c'était effectivement un guide, une collection, Relais Château. Et on est devenu un véritable mouvement, avec une dynamique. Et les jeunes se sont embarqués avec moi. Certains qui n'étaient pas convaincus au départ, j'avais certaines réticences en plus de certains chefs japonais en disant mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre. Aujourd'hui, ce sont les plus fervents défenseurs de ce manifeste. Alors il est vrai, il existe. Là, je viens de passer le flambeau à mon ami Mauro Colagreco de Mirazur à Menton, qui est un chef également extrêmement engagé. Je suis certain qu'il va y arriver. De toute façon, je vais continuer à l'épauler. Je vais garder très vigilant même parce que je me suis pas battu comme ça pendant 9 ans bénévolement pour que tout ce soufflet retombe. Mais je suis aujourd'hui, la dynamique, elle est en place. Quand je vois ces chefs aux États-Unis, au Mexique, je les vois en Espagne, je les vois en Italie, c'est absolument incroyable. Et au-delà. Cette dimension exemplaire. On va dire, oui, mais ça va pas changer grand-chose si c'est 550 meilleurs. Oui, mais si déjà, si nous tendons vers une dimension, je dis bien, nous tendons vers une dimension plus vertueuse, on entraîne toute la chaîne de la restauration. Juste un mot, je n'ai qu'un regret encore. Je n'ai eu qu'un regret à cause du Covid. Je n'ai pas eu le temps de faire inscrire dans le marbre le 21e engagement. Et le 21e engagement, c'était à l'international, de dire que dans ces groupements d'hôteliers et de cuisiniers, nous allions être les premiers à prendre l'engagement déclaratif. Alors, pour nous, Françaises et Français, même si ce n'est pas toujours parfaitement respecté cette loi, qui est l'égalité des salaires hommes-femmes à travail et responsabilité équivalente. Ça nous permet, pour nous, en disant, mais oui, mais c'est ça qui... Oui, allez parler au Japon, allez parler en Inde, allez parler en Amérique du Sud de ces sujets-là, et vous allez vous apercevoir que même parfois, et vous êtes parfois très étonné, que parfois même certaines femmes ne défendent pas cette cause.
Olivier Rollinger, on entend déjà dans vos propos des propos très politiques. Oui. Qu'êtes-vous allé faire au régional en 2021 sur la liste Bretagne, ma vie de Daniel QF?
Me fourvoyer. Me fourvoyer. J'avais oublié que... J'avais pensé qu'à l'âge de 65 ans, je pouvais un petit peu peut-être essayer, parce que il y avait plein d'espoir dans cette liste régionale. C'était surtout pas une liste apolitique, mais c'était une liste apartisane. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes qui venaient de, tous les ans, il y avait des gens qui venaient de LFI, des gens qui venaient de LR, qui étaient là, tous les âges, tous les milieux. C'était se retrousser les manches en disant bon, t'étais ceci, t'étais cela. Nous, ce qui m'intéresse, c'est la Bretagne. Qu'est-ce qu'on va en faire? La Bretagne, ce merveilleux potager au-dessus de la mer, une terre qui est extrêmement abîmée et malade, à la fois sur ses nappes phréatiques, sur ses sols, mais aussi sur son littoral, et en n'accusant pas et en pointant pas du doigt ce qui s'est passé dans le passé. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va construire? Qu'est-ce que nous souhaitons comme Bretagne pour nos enfants demain? Et puis, bon, on a fait un score. En plus, bon, c'était la période des Covid. C'est quand même très difficile. On a fait un score qui restait tout à fait honorable, mais qui ne nous permettait pas de maintenir au deuxième tour. Et on avait bien dit qu'au deuxième tour, bien, chacun retrouvait sa liberté. Et par contre, nous allons nous retrouver peut-être deux magnifiques banquets qui correspondent aux équinoxes, parce que vous savez que les équinoxes, pour nous, les Celtes, beaucoup d'importance ici. Et on aurait fait un grand banquet en se retrouvant. Parce que c'était avant tout, c'était tenter de réconcilier cette élection qui a souvent peu d'intérêt pour beaucoup. C'est se réconcilier avec la démocratie. C'est-à-dire il y a des gens qui ne voulaient plus voter, qui disaient, bon, allez, votez pour nous, parce que nous, on ne s'occupe pas de directives qui arrivent de Paris à travers un parti, qu'il faut faire ceci, cela. Et puis, malheureusement, le soir du résultat, le dimanche soir au lundi soir, eh bien, notre tête de liste avait changé d'avis et est parti se rejoindre à un des partis. J'avais oublié cette... En fait, j'avais oublié cette phrase, pourtant, que j'avais lue, je connaissais, de Machiavel, qui disait qu'en politique, la trahison est une vertu. J'ai l'impression d'être tombé sur quelqu'un de très vertueux à ce moment-là.
Malgré tout, vous avez peut-être envie, en y allant, de renouer vos activités internationales, qui avaient pris une dimension très importante dans votre vie, notamment avec Relais Château, avec votre engagement territorial, c'est-à-dire renouer aussi avec la terre de votre enfance, cette Bretagne que vous aviez peut-être un peu quittée.
C'est très juste ce que vous dites, parce que bien souvent on me fait le reproche, mais pourquoi tu vas batailler quand le ministère des Pêches au Japon, par exemple, comme je vais le faire de la semaine prochaine, alors que pour présenter le concours Olivier Rollinger pour la défense des ressources halieutiques, alors que tu t'occupes pas suffisamment de la Bretagne. Vous avez raison. Et lors de cette campagne, j'ai pu me rapprocher de gens absolument exceptionnels dans tous les domaines qui ont fait évoluer d'ailleurs mon point de vue, en particulier sur la pêche, en rencontrant tous les pêcheurs de l'Orient. Je regrette pas du tout. Je me suis rendu compte que je veux beaucoup plus. Je voulais pas me repartir avec cette cuisine politicienne. Cette cuisine ne m'intéresse pas. Et je pense que mais par contre, faire de la politique, peut-être comme je le fais actuellement en vous parlant, en m'adressant à vous, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte, et en particulier même en Ille-et-Vilaine, que demain en Ille-et-Vilaine, les cuisines. La cuisine soit faite maison à 100%, soit 100% bio et 100% local. Je m'appuie là-dessus sur un collectif qui s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat et qui fonctionne déjà parfaitement en Dordogne, où il y a déjà plus d'une dizaine de collèges qui sont 100% faits maison, où la cuisine est faite 100% maison, 100% local pour le même prix. Donc ça marche.
On le développera demain avec vous, Olivier Rollinger, puisque nous intéresserons à votre combat principal d'aujourd'hui, cette meilleure alimentation pour toutes et tous. Vous l'avez formulé et théorisé dans un livre important qui s'intitule « Pour une révolution délicieuse ». Ouais. Et ça sera le titre de notre émission de demain, dernière émission, déjà.
Beaucoup de choses à développer, oui.
Absolument.
Ça passe trop vite.
Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup, belle soirée, Carole.
C'était À Voix Nue avec Olivier Rollinger. Chargé de programme, Daphné Abgral. Prise de son, Stéphane Foulon. Réalisation, Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.